Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'avais un débat, et je fais un débat depuis plusieurs jours là dans ma tête tout seul, et j'aimerais le partager avec vous.
Tu débats tout seul dans ta tête, toi.
Tout seul, je suis un vrai fou.
Je ne vais pas vous révéler le plan des pyramides, mais bon.
Attention, ce ballon dans la surface, il va être lobé. Oh, c'est le but fabuleux. Le coup de génie de Damien Perkis, le verre de toujours. On vous l'avait dit, Damien Perkis, son rêve, c'était bien sûr marquer un jour au chaudron face à son équipe de cœur.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After. Avec ce soir, autour de la table, Walid Echarchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
En face de toi, Simon Lutin. Salut Simon.
Salut Nico, salut tout le monde.
Et on accueille pour la première fois dans Génération After Damien Perkis. Salut Damien.
Salut Nico, salut tout le monde.
Plaisir de t'accueillir ici.
Bienvenue Damien.
Auditeur de l'After, je crois.
Oui, ça m'arrive. J'entends les débats houleux, c'est toujours intéressant.
Bon, j'espère que t'écoutes de 20h à minuit, hein, même si t'as dû grandir aussi avec l'After. Historique de Gilbert.
Bien sûr.
T'écoutais quand t'étais joueur ou pas?
Oui, ça m'arrivait, ouais, franchement.
Je sais pas, que les footballeurs n'écoutent jamais les émissions
foot. C'est faux, ça.
Ils lisent pas la presse.
Ils lisent pas
la
presse. C'est
mytho, ça.
Bien sûr, quand il y avait les notes encore à l'équipe, tout le monde regardait. C'était les premiers journaux qui étaient ouverts dans les vestiaires.
Tu faisais pas comme Jérôme, hein, t'appelais pas le mec qui t'a mis 3 sur 10.
Non, mais j'avais eu des discussions assez intéressantes avec Johan Aubois à l'époque.
Oui.
Et c'est très intéressant parce que justement il expliquait la difficulté de noter 22 joueurs.
Ah, tout seul en plus. En fait, ils sont deux sur les gros matchs. Exactement.
Ouais.
Ta meilleure note, c'est quoi dans ta carrière? Tu as un souvenir?
Je sais pas, je pense que ça doit être 7 ou 8, je pense.
C'est bien
7, ouais, je 7. Pense un 7. Ouais.
7. C'était où, à Sochaux?
Ouais, à Sochaux.
À Sochaux.
Et quand t'étais en Espagne,
quand je marquais des buts.
Quand t'étais en Espagne, tu regardais aussi?
En Espagne, ouais, mais c'était moins parce que c'était avec notamment ils le font avec des espèces de pics.
D'accord,
oui, c'est ça. Plutôt là, moins, ouais, c'est différent, la notation est différente.
Bon, Damien Perkis est avec nous jusqu'à 22h, 16 ans de carrière professionnelle, 7 clubs, 4 pays, 3, Saint-Etienne, Sochaux. Et quand on ferme les yeux, on pense à quel maillot?
Sochaux.
Damien Perkis, évidemment.
Ouais,
Simon, t'es d'accord?
Sochaux, évidemment.
Ouais. Sochaux.
Et un peu le Real Betis.
Le Real Betis aussi, quand même. L'expérience en Espagne. Toronto aussi.
Ouais.
Belle expérience, Toronto.
Très belle expérience. Après, je pense qu'il faut le faire quand on est un peu plus jeune.
Ouais.
Personnellement, je l'aurais fait
si j'étais
plus jeune. Parce que vie de famille compliquée de ramener tout le monde là-bas. Et puis après, c'était plus de pression du résultat, plus rien. Donc c'était un peu trop dilettante.
Et puis Nottingham Forest aussi, j'avais oublié ça.
Ouais, j'ai fait un an avec Philippe Montagnier et Serge Romano qui m'avait appelé quand j'étais à Toronto justement.
Et puis Gazélec pour finir. Et bien sûr, international polonais.
Oui.
Euro 2012.
C'est ça, de 12 ou 13 sélections, je crois.
14, ouais.
14 sélections, ouais. Même précisément. Mm-hmm. Avec Blachnikovski, on en parlait tout à l'heure, Lukas Piszczek, Robert Lewandowski, un certain Ludo Bragnac aussi, apparemment. Mm-hmm. Il fait une place dans la sélection.
Mm-hmm. Ouais, il m'avait préparé le terrain.
Exactement. T'es avec nous, on est heureux de t'accueillir. Ce soir, dans Génération After, on va parler de Marseille. Dans moins de 10 jours, l'Atalanta, demi-finale d'Europa League. Ce soir, on pose le débat parce qu'on l'a fait depuis plusieurs jours déjà à RMC. C'était chaud. L'OM a-t-il les moyens d'être champion d'Europe, tout simplement? On vous attend également au 32-16, supporters marseillais. Demain soir, Monaco-Lille, match pour la qualif en Ligue des Champions. Qui est le mieux armé pour prendre la deuxième place? Là aussi, on vous attend, supporters monégasques et lillois, au 32-16. Lens et Lewaï sifflé par une partie des supporters lensois samedi soir. Le public du RC Lens est-il trop dur avec l'attaquant? Et puis à 21h, Avid Walid qui veut faire son mea culpa à propos de Vitinha, le Parisien. On t'écoutera. Simon, toi, c'est très clair, tu veux voir Barcola à l'Euro et il n'y a pas de débat. Et Damien, tu nous parleras aussi d'Albert Riera, entraîneur des Girondins de Bordeaux, que tu as croisé cette saison en bord terrain. C'est pas un grand souvenir, comme beaucoup de journalistes, comme même beaucoup d'entraîneurs de Ligue 2. Bordeaux qui joue ce soir. D'ailleurs, on va suivre là le multiplex Ligue 2, hein, important dans la course à la montée, dans la course au maintien. Ça démarre à 20h45. Ce sera dans Génération After. Et puis à 22h, Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars.
Salut Gilbert.
Ce soir, Daniel Riolo est là, tout comme Florent Gautreau.
Ouh.
Je ne peux pas vous promettre une émission 100% sans Luis Enrique. On va essayer.
Ah, parce qu'hier c'était chaud.
Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de PSG au programme. Si.
Ouais, ça peut toujours revenir.
Mais t'as raison, ouais. Tous les gens mettent Luis Enrique.
Ça repart par la fenêtre.
Dans les débats, ils prennent tout le temps un exemple. Non, mais c'est comme Luis Enrique.
Bon, non, mais
ça repart.
On va quand même parler un peu de Paris, parce que demain il y a les matchs. Donc
oui,
on va parler des matchs de Ligue 1 importants demain à Monaco, Lille notamment, PSG, Lorient, Nice, Marseille. Et puis Nantes, Flo veut parler de Nantes, parce qu'il trouve que c'est bien triste ce qui se passe à Nantes, qu'il n'y a rien qui va à Nantes, quoi, en gros. On va en parler. La Ligue 2, bah, on a promis hier qu'on ferait du Bordeaux, donc on va le faire ce soir. Bordeaux, il n'y avait plus de papier toilette, ça y est, il est revenu. Maintenant, il n'y a plus de jardinier. On verra s'il y a toujours des joueurs. Il n'y a plus de supporters non plus ce soir, pendant un petit moment,
a priori. Ouais, c'est un quart d'heure.
Il n'y a rien qui va à Bordeaux, là non plus, donc on va en parler. Et puis on a Sébastien Bassong ce soir avec nous, qui était là déjà
très bon,
pendant nos After Cannes.
Magnifique.
Et qui a créé un super podcast d'ailleurs.
Ouais, avec Quentin Frati. Ouais,
et Quentin Westberg,
ouais, que j'ai connu.
Génération 86, ballon main corps.
Exactement. Ah ouais. Voilà, j'ai écouté cet après-midi.
Très bien ces petits. Ouais.
Ouais. INF La Fontaine. Ouais. Mais ouais. T'étais deux ans avant avec La Fontaine. Ouais,
j'étais en troisième année, ils sont arrivés en première année.
Tu les as croisés. T'as croisé Atem Ben
Arfa.
Atem Ben Arfa arrivé avec La Fontaine.
Voilà, Abou Diaby. Ils sont devenus de bons hommes. Voilà. C'était des bons garçons, ils sont devenus des bons hommes.
Ben voilà, ben alors comme il est en Angleterre, Sébastien, on va parler foot anglais, d'autant que Julien Laurence est de passage à Paris. Donc on va faire une heure de foot anglais ce soir avec pas mal de petits sujets.
Julien Laurence est en plein
vrai à Paris, incroyable. Oh,
le frérot, ouais, il vient.
Oui, c'est pas un journaliste virtuel.
Ah,
il existe vraiment.
C'est pas une IA.
Non, c'est pas une IA. Ni un hologramme.
Voilà, donc à tout à l'heure, 22h.
À tout à l'heure, mon cher Gilbert, avec Flo et Daniel.
On a eu du grand Daniel hier. Hein. Encore beaucoup d'exercices de contorsion.
Vas-y. J'aime bien l'expression.
Ouais.
Très souple, hein, Daniel.
Très
extrêmement souple.
Très souple. Le plus souple.
Ah ouais, c'était le plus souple de tous. Hein.
Ah enfin, oui, vraiment. Encore un très très bel exercice, c'est le plus fort.
Vous pouvez écouter le podcast.
Vraiment, hier, c'est très très fort.
Dès 22h10,
très fort.
Souplesse totale.
Ah non, non, mais
il touche.
Il va chercher la jambe, il va tout chercher. Hein.
Le talon
c'est
debout.
C'est impossible à faire. Ne reproduisez pas ça chez vous.
Ça peut être très dangereux.
C'est que pour les professionnels.
Bien sûr. Bon, c'est parti pour Génération After. Marseille sur le point d'attaquer à une séquence décisive. Trois matchs à domicile en 8 jours, Nice demain, Lens dimanche et bien sûr l'Atalanta jeudi prochain, demi-finale aller de Ligue Europa. Tiens, quelques infos d'abord à vous donner, bonne nouvelle, Jonathan Clauss est de retour, il sera dans le groupe pour Nice dès demain soir. Chancel Mbemba est forfait mais il reviendra bientôt. Toujours pas de retour bien sûr de Bilal Nadir, Valentin Rongier, Babo Meite et Quentin Marlin qui lui, alors pas impossible qu'il soit dispo hein, pour le match aller contre l'Atalanta Bergame. Question qu'on se pose ce soir, certes elle paraît prématurée mais on voulait la faire parce qu'on l'a déjà beaucoup posé en off dans les coulisses de l'After. L'OM peut-il gagner la Coupe d'Europe, l'Europa League? Vous nous appelez supporters de l'OM au 32-16 et notamment pour évoquer cette séquence de 8 jours qui arrive pour l'OM. Alors votre avis là-dessus, tiens Simon, je commence avec toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer Marseille déjà sortir l'Atalanta et Marseille par exemple battre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue Europa?
J'ai l'impression qu'on a raconté la même histoire sur l'OM toute la saison, à savoir après beaucoup d'espoir suite à un recrutement qu'à l'époque on jugeait intéressant et que maintenant on juge catastrophique. Moi, j'entends beaucoup de gens qui, si on les entend, si on les écoute, me disent que l'OM a une équipe en bois de cagette, qu'il n'y a rien à en tirer. On ne les voyait pas passer contre Villarreal, on ne les voyait pas passer contre Benfica. Si tu regardes le tableau final de la Ligue Europa, a priori, bon, bah, ils n'ont aucune chance. C'est vraiment l'OM, l'intrus. Moi, je ne les vois pas passer non plus contre l'Atalanta. Maintenant qu'on a dit ça, je ne vais pas ressortir les poncifs, me vautrer dans les clichés à ces altitudes-là. Tout est possible quand tu démarres une demi-finale. Finale de Coupe d'Europe au Vélodrome, quelle que soit l'équipe face à toi, tu pars avec un avantage. Donc tout va dépendre de ce qu'ils mettent dedans. Il y a peut-être l'effet, tu sais, est-ce qu'ils sont sur les rotules? T'as l'impression quand même qu'ils jouent avec l'énergie, hein, les mecs, depuis, c'est de toute façon ce que Gasset était censé apporter, qu'il a très bien apporté. Est-ce qu'il y aura l'adrénaline, c'est l'effet colonie de vacances? Tu sais, on sait qu'on se reverra pas l'année prochaine, on a passé un beau moment, une belle aventure, des beaux souvenirs, est-ce que ça va les porter? Ils ont un Aubameyang qui confirme que c'est un joueur premium, alors que je le voyais plutôt décliné, moi, en cette fin de saison. Bon, moi, je fais partie des optimistes, mais j'entends les arguments qui m'expliquent que il n'y aura ni Europe par le championnat, ni trophée en Ligue Europa. A priori,
on t'as pas de réponse tranchée, Walid.
Non, moi j'y crois.
Mais tu veux que je te dise s'ils vont gagner la Ligue Europa ou ils vont pas gagner la Ligue Europa?
J'y crois absolument pas. J'y crois.
J'y crois. Bah, si j'ai un avis tranché, oui, j'y crois.
J'y crois parce que l'Europa League est une compétition spéciale, que les fameuses dynamiques de saison ne sont pas une vérité absolue pour gagner une compétition ou non. On se le disait un petit peu dans la rédaction tout à l'heure. Séville gagne la Ligue Europa l'année dernière en faisant une saison catastrophique. Ils terminent 12e de Liga et à un moment donné dans la saison, ils étaient même aux portes de la relégation. Villarreal, quand ils gagnent contre Manchester United, termine 7e de Liga. Francfort, quand ils gagnent l'Europa League, ils sont 11e de Bundesliga. Donc c'est assez commun, hein, les équipes en difficulté en championnat qui font entre guillemets all-in, où on
en tout cas qui trouve une oxygène dans cette compétition pour aller au bout. Après, il faut respecter bien évidemment l'Atalanta, le Bayer Leverkusen qui fait une saison historique et la Roma qui sont a priori trois équipes bien supérieures à l'Olympique de Marseille collectivement dans leur référence. L'Atalanta vient de sortir Liverpool, même s'il y en a qui diront que c'est une équipe B de Liverpool à l'aller, il fallait le faire. Leverkusen est invaincu cette saison et on va pas raconter la saison de Leverkusen ici, et la Roma est de mieux en mieux avec De Rossi. Maintenant, voilà, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a quand même mérité sa place en demi-finale de l'Europa League. Ils ont quand même sorti, ils étaient quand même dans la poule de la mort. Enfin, on met des guillemets, mais l'AEK Athènes, l'Ajax, Brighton de Zerbi qui avait terminé sixième l'année dernière, on se disait comment l'OM va faire. Ils ont terminé deuxième. Derrière, le Shakhtar Donetsk qui avait terminé troisième dans la poule de Porto et le Barça et qui avait battu le Barça, tu les sors. Villarreal qui a quand même une histoire en Europe sur les dernières années bien supérieure à l'OM, même s'ils sont en difficulté. Ils avaient fait demi-finale avec Unai Emery de Ligue des Champions et en sortant la Juve notamment et le Bayern. Et derrière, ils avaient gagné aussi l'Europa League contre Manchester United et Benfica. On parle quand même, même s'ils sont en difficulté cette saison,
du deuxième championnat portugais.
Mais d'une équipe qui avait fait deux fois quart de finale de Ligue des Champions. Donc ils sont là. Il y a quand même un ADN Europe dans ce club. Bah, je me dis oui, moi pourquoi pas. J'ai envie d'y croire. Et puis je préfère prendre le Bayer Leverkusen. Si tu prends le Bayer Leverkusen, parce que c'est pas fait en finale sur un match plutôt que sur une double confrontation, quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc moi je me dis pourquoi pas. Maintenant bien évidemment qu'ils sont pas favoris. Hein.
Bon, ton avis Damien là-dessus, toi. Est-ce que ça te paraît fou d'imaginer ça aujourd'hui?
Moi, si tu veux vraiment mon avis, oui. Je les vois pas aller au bout. Je les vois pas la gagner. Pour moi, déjà passer l'Atalanta, ça va être difficile.
Oui, ça va être très difficile.
Parce que même s'il n'y a pas une culture Coupe d'Europe comme à l'Olympique de Marseille, ce que propose Gasperini, c'est quand même plutôt solide et bien meilleur que ce qu'on voit à l'Olympique de Marseille depuis quelques temps. Après, moi, là où je rejoins Simon, c'est sur le fait qu'ils sont à l'énergie. On voit beaucoup de mecs qui sont fatigués, on voit beaucoup de blessés aussi. À partir d'un moment, ça peut plus tenir. Et la profondeur de banc, elle le permet pas non plus. On le voit, on fait rentrer quasiment des gamins. J'ai vu qu'il y avait encore Sparagna qui était sur le banc pour pouvoir pallier les absences en défense centrale. Donc voilà, on va chercher quand même assez loin dans les vestiaires.
Il y a des fonds de tiroir parfois.
Voilà.
C'est vrai de dire ça, mais bon.
Après, les gamins. Oui. Il y a la culture Coupe d'Europe, il y a ce qu'ils ont fait par le passé, il y a ce qui se passe aussi au Vélodrome.
C'est ça.
On l'a vu contre le Benfica où ils ont été capables de se transcender encore une fois. Mais est-ce que à chaque fois se transcender, ça va tenir? Je suis pas sûr.
Ah bah avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta qui fait encore une fois, qui a sorti Liverpool. Non,
l'Atalanta en avril, je dis, a perdu contre la Fiorentina, contre Cagliari, a fini contre l'AS Verona.
Ils peuvent les battre.
C'est pas insurmontable.
Oui, une très belle équipe. Il y a aucun problème
sur la dynamique. Après, moi, je suis pas. C'est ce qui se passe quand on voit contre Toulouse la façon dont Marseille a fini le match et que c'est vraiment un peu tiré par les cheveux d'aller chercher ce point-là sur un but magique de Montbagnard.
Après, c'est trois jours après 120 minutes.
Voilà. Mais justement, l'accumulation de matchs, à un moment donné, elle va faire que tu peux pas non plus tenir un rythme
et toi qui as connu ça, je te pose la question, mais est-ce qu'une demi-finale d'Europa League, ça peut pas aussi forcer certains joueurs?
Ça va galvaniser certains,
non, mais
c'est
à
sûr.
Revenir plus rapidement, à faire les efforts.
Mais bien sûr.
Il y a quand même des perspectives pour les Klos, ceux qui sont blessés là.
Ah, ils sont de retour d'ailleurs, Klos et Klos.
Tu peux avoir la dalle. Et être sur cette dynamique-là aussi, non?
Peut-être qu'il y aura une dynamique de vestiaire qui va se créer, une émotion aussi par rapport aux envies des uns et des autres. Mais je te le dis, moi, je pense qu'être à l'énergie depuis quelques temps, ça va leur coûter à un moment donné. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Là, déjà, sur le prochain match, ça va être compliqué contre Nice. Tu vas avoir derrière la Coupe d'Europe qui arrive très vite. Moi, je vois la difficulté déjà de passer la demi-finale.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le luxe, et d'ailleurs, il y a très peu d'équipes qui ont le luxe de choisir. Personne, je pense, dit on va lâcher le championnat pour jouer la Coupe d'Europe, même si Walid a rappelé que très souvent, tu laisses de l'influx, tu laisses de l'énergie. Et,
même c'est une vraie bonne question, je crois, en tout cas.
Parfois,
c'est une question journalistique. Est-ce que Marseille n'a pas intérêt à lâcher?
Je pense que personne ne fait ça. Je pense au contrôle de Damien.
Tu fais Nice, lance Atalanta en 8 jours.
Tu vois Benatia ou Longoria ou même Gassé dire oh, les gars, vous savez quoi, Nice et Lance, c'est pas grave.
Tu vas les jouer à fond.
C'est pas ça.
Je pense que l'OM, ils ont pas.
C'est faire souffler trois joueurs majeurs ton effectif, tu vois, par exemple.
Ils sont à flux tendu sur l'effectif, justement. Il y a des mecs qui rentrent au fur et à mesure. Nice, il faut gagner. Lens, il faut gagner. Si tu finis T'imagines, tu vas en finale de Ligue Europa, tu perds et t'as fini 11e en championnat. Bon,
le débat se passera demain s'il y a des fêtes contre Nice. Bah, parce que tu seras peut-être obligé de lâcher la Ligue 1 et ne penser qu'à la Ligue Europa. On fait une pause.
Et en fait,
des fêtes
contre Toulouse, il aurait pu être déjà posé ce soir.
Tout à fait. Dans un instant, tiens, Vincent nous a appelé, supporter de l'OM. Lui, en revanche, il dit qu'il faut lâcher le championnat. On l'accueille dans Génération After dans quelques secondes. Reste avec nous et avec Simon Dutin, Damien Perkis et Walid Acharchour. Vous écoutez RMC, c'est Génération After. Il est 20h16. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Pauline Acharchour, avec Simon Lutin et avec Damien Perkis, hein, ancien joueur professionnel, vous le savez, vous, ce chalier, Stéphanois, vous avez plein de souvenirs qui vous reviennent en tête.
Des bons et des mauvais.
À Nottingham aussi, peut-être. Ils en ont. Si vous nous écoutez également au Canada, peut-être que vous avez vu jouer Damien en MLS. C'est Génération After sur RMC. On est ensemble jusqu'à 22h. On parle de Marseille. Marseille a-t-il les moyens, est-il armé pour gagner la Ligue Europa? Vincent, tiens, est avec nous, 32-16, supporter de l'OM. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir,
l'After. Heureux de t'accueillir. Salut, bienvenue Vincent. Sur RMC avec Damien Simon également. Et Walid. Alors, toi, tu as un avis tranché, je vois là sur l'affiche. Tu estimes qu'il faut lâcher le championnat dès maintenant.
C'est bon, faut arrêter les conneries. Moi, j'ai les souvenirs de 2004, 2018, où on a joué le championnat comme des cons jusqu'à la dernière journée. On s'est pointé en finale de Ligue Europa avec des joueurs soit blessés, soit diminués, soit cramés physiquement. Là, les mecs, en plus, on le sait, on le voit, ils ont une préparation physique qui a été catastrophique. Là, c'est bon. Les cadres, on les met, les cadres, tu les mets 30 minutes en fin de match, histoire de leur faire garder un peu de rythme, ou une première, la première mi-temps. Après, rideau, tu laisses reposer. Quand tu vois les quatre équipes qui restent, tu sais que l'Atalanta et la Roma, ils vont s'entretuer dans leur championnat pour la cinquième place qualificative de Ligue des Champions chez eux. Et les Leverkusen, au bout d'un moment, ils vont perdre cette saison. Ils commencent à avoir une pole de cul, donc tu peux espérer qu'ils perdent contre toi à la 95e. Pourquoi pas? Mais ça sert à rien de jouer le championnat. On peut espérer quoi? La sixième place pour l'Europa,
bah,
Conférence League. Ah ouais, génial, la Conférence League. Ouah, c'est bon, on l'a joué il y a deux ans, c'est fait taper comme des chefs par faire une heureuse. C'est bon, les conneries, ça suffit. Là, on a une chance. Là, on a une chance.
T'as monté, Vincent.
Encore. Non, on a encore une chance de jouer une finale. L'Atalanta, par miracle, ils ont sorti Liverpool. Je pense que personne ne s'attendait sur le plateau que l'Atalanta ait gagné 3-0 à Anfield. Putain, pourquoi pas l'OM peut espérer gagner 2-0 contre l'Atalanta à la maison. Et après, tu mets le bus au match retour sur un contre de Aubameyang avec Mbanya qui claque des buts. Même lui, je pense qu'il ne sait pas comment il les met à la Brambao. Il nous fait un contrôle du dos et une reprise du genou qui finit en lucarne. On n'est pas à l'abri de rien. Les Ritecs, ils ont toujours réussi en Coupe d'Europe. Dès qu'on a joué des Ritecs, ils ont réussi.
Ouais, on peut les appeler les Italiens aussi.
Réalité, c'est les dernières années, tes plus grosses sensations, c'est contre les Ritecs.
Bon.
Donc, on peut espérer.
Après, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ça s'entend. Sur une fin de saison où t'as eu pas mal de joueurs sur les rotules, et moi, pour moi, les trois joueurs les plus fiables aujourd'hui, c'est Balerdi, Verretou et Aubameyang, qui eux aussi tirent la langue. Kondogbia, qui essaye d'enchaîner deux matchs par semaine, qui a beaucoup de mal. Minarid, qui a eu qui était pas là sur le dernier match. C'est vrai que tu peux préserver toutes tes chances pour ces deux rangs. Rendez-vous là, parce que si on nous avait dit il y a encore 2-3 mois que l'Olympique de Marseille, pendant que Gattuso était là, qui pouvait avoir une demi-finale contre l'Atalanta, avec tout le respect que j'ai pour l'Atalanta, superbe équipe, super coach, qui collectivement est bien meilleur que l'Olympique de Marseille, tu dois jouer le coup à fond. Après, le problème, c'est que tu peux pas arriver contre Nice demain et mettre une équipe B.
Tu peux le faire dimanche contre Lens.
Mais donc ça va peut-être se faire inconsciemment, peut-être que je sais pas, ça va. Mais c'est vrai que je pense que l'opportunité qu'ils ont en Europa League, il faut la saisir à 100%.
Oui, mais Vincent, t'as l'air d'avoir tout posé sur papier, mis les retenues, fait des divisions, des calculs. Non. Moi, je veux bien si c'était aussi simple que ça. Mais sauf erreur de ma part, je crois qu'en 99, quand Bordeaux est champion, que l'OM termine deuxième à un point, vous prenez 3-0 en finale contre Parme. Ça pas, je veux dire, vous avez mené de front les deux choses. Il y a pas, je suis pas sûr que ça te rende service. Pour performer dans la compétition que t'as coché, de lâcher, de laisser des mecs au garage.
Lui, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont été dans le sprint final, ils ont perdu de l'influx, ils ont perdu les finales.
Ouais, mais
je pense que.
Et à l'inverse, si tu laisses les mecs à l'écurie et que du coup tu leur dis, ah ben vas-y, c'est contre l'Atalanta que tu dois tout donner, bah si tu te rates, tu passes à côté de toute ta fin de saison. Une victoire contre Lens, tu te relances. Moi, je veux bien que la Conference League, ça t'intéresse pas, mais je sais pas, t'as vu les émeutes. Le peuple romain qui a envahi le Colisée après la victoire dans la première édition. Je comprends pas pourquoi il y a ce mépris. Une Coupe d'Europe, c'est toujours fantastique.
Vincent, tu peux répondre, vas-y.
Simon, tu me demandes de choisir une Europa Conference League. On est encore, je regarde le match en retard demain, on est même si on le gagne encore à 3 points de Lens. Lens qui a une fin de championnat plutôt quand même relax après notre match contre nous, et d'avoir la chance de l'autre côté, par peut-être un coup de bol, aller jouer la Ligue des Champions si tu vas en finale.
C'est que le chemin est...
Excuse-moi,
non, si tu gagnes la finale. Alors,
si tu gagnes
après,
la finale.
Par contre, ouais, après, c'est quand même différent. Il y a un seul problème. Si on gagne la finale de Ligue des Champions, il y a un seul problème qui est quand même assez énorme. Allez, on garde Joaquim Correa dans l'effectif. Alors ça, c'est le gros problème pour moi.
T'es pas à l'abri qu'il t'en mette un ou deux d'ici la fin de saison, Correa.
Ah, écoute-moi,
on a vu son match contre Toulouse.
Non, mais les mecs,
Correa, s'il plante le but en s'il plante un but à l'Atalanta et le but en finale de la Ligue Europa, je t'annonce que le mec, ils sont tous le virage nord, ils ont les fesses tatouées Correa. Je te lance même Dimeco, je pense qu'il se fait une crête et il fait taper Correa sur le front, moi je pense que c'est parfait.
Merci Vincent.
Mais juste rapidement, si tu gagnes contre Nice, si tu gagnes contre Lens, derrière c'est Lorient, Reims, Le Havre, bah, sur la dynamique, sur l'adrénaline, sur la lancée de ta fin de saison.
Ah, mais c'est 3 matchs en 7 jours.
Ah, d'accord, mais
c'est
bon.
3 matchs en 7 jours. Et si à finale, c'est même 4 matchs en 12 jours. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte.
Il faudra faire un choix à un moment, c'est sûr. Ouais. Bon, voilà pour.
Je rappelle qu'en 2004, l'OM termine 7ème. Et qui vont en finale d'Europa de Coupe UEFA
à l'époque. 2004.
À l'époque. Et déjà, il y avait Alain Perrin qui avait démarré la saison, et donc José Anigo qui était venu un peu à la Jean-Louis Gasset, quoi. Et derrière, ils avaient fait finale, donc ça ressemble aussi un peu à ce type de saison là.
Ils avaient Didier Drogba en numéro 9, Aubameyang, et Kamel Meriem numéro 10.
Aubameyang, je vais pas dire se rapproche de Drogba, mais dans le même style, fait une saison un peu similaire en Europa League.
Ça dépend de la gestion des cadres, notamment dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci Vincent d'avoir fait le 32-16. Et si c'était Faris Moumbagna, le héros de la fin de saison. Tiens, écoutez ce qu'en disait Jean-Louis Gasset aujourd'hui en conférence de presse, en veille de match contre Nice. Et je veux bien l'avis de Damien sur le profil Faris Moumbagna, toi le défenseur central. Écoutons Jean-Louis Gasset.
Quand je l'ai vu la première fois, de suite j'ai pensé à Brandao. Même gabarit gaucher. Maintenant c'est un jeune joueur, il faut le faire travailler techniquement, il faut le faire travailler dans les déplacements, parce que c'est un garçon qui va vite. On s'en rend pas toujours compte, parce qu'il se positionne très mal pour les transitions. Il faudrait avoir du temps pour travailler avec lui. Mais malheureusement, on joue tous les 3-4 jours. Il est souvent efficace en rentrant.
Faris Moumbagna, le héros du quart de finale. Qu'est-ce que t'en penses, Damien, de ce joueur-là? On voit tous ses lacunes techniques. Ça, c'est incontestable. Hein. Jean-Luc Gasset le dit sans le dire là aussi. Il faut qu'il travaille encore. Il a 23 ans. Est-ce que tu penses qu'il a une marge de progression? Est-ce que ça se bosse, ça aussi? Ou il sera ce joueur-là?
Bien sûr, il aura une marge de progression. Moi, j'ai un exemple tout simple. Bafé Gomis à Saint-Etienne, à l'époque où moi j'arrive en 2005. Bafé, devant le but, c'est pas un ténor. Dans ses déplacements, c'est pas trop ça. Son jeu dos au but n'est pas bon. Par contre, à la fin de chaque entraînement, il était avec Laurent Rousset pendant un an et il a travaillé. Appelez-le, Bafé Gomis. Demandez-lui ce qu'il doit à Laurent Rousset. Il vous dira.
Il était avec nous il y a 2 semaines, Bafé. Ouais.
Et je pense que quand on prend un joueur et qu'on peut le faire travailler.
Sans but en Ligue 1.
Voilà. Et on connaît la carrière qu'il a fait. Mais je veux dire, si on prend un joueur et qu'on a le temps de travailler avec lui, et je pense que Jean-Louis Gasset l'a très bien expliqué, en jouant tous les 3 jours, c'est compliqué. Après, je pense qu'il peut progresser, devenir l'attaquant de l'Olympique de Marseille, l'avançant de l'Olympique de Marseille. J'y crois pas trop, parce que c'est pas pour moi. Ils l'attendent encore. Aubameyang était venu, mais c'est pas vraiment le profil type que l'OM attend. Vitinha, ça a pas marché non plus. Et là, Moumbagna, c'est voilà, il est su des critiques. On peut le prendre comme un impact player. Avec sa vitesse, comme on dit. Des fois, il paraît maladroit avec ses pieds, mais on ne sait jamais, il peut sortir un crochet qui arrive de nulle part. Et là, on l'a vu contre Toulouse. Il tente un geste que personne n'aurait tenté.
Tout le monde est injuste avec Moumbagna.
Mais moi, ce que je trouve dérangeant, c'est les critiques et les moqueries.
Ça se moque,
c'est ça, les moqueries. J'ai entendu, en plus, j'aime beaucoup Duga hier, même parfois Daniel, etc., même si on connaît ce qui se passe entre les deux. Mais en fait, Moumbagna, il arrive pour être numéro 2 derrière Aubameyang. Il prend 80K par mois. Il arrive pour progresser. Il a mis 20 buts en Norvège. Il a 23 ans. Oui, il a des.
C'est pas. C'est il est venu pour 8 millions d'euros.
Voilà, 8 millions d'euros. C'est pas Kun Agüero avec les pieds. Mais encore une fois, dans la surface de réparation, il peut aider. Et quand je vois tous les débats qu'on fait sur un remplaçant de l'Olympique de Marseille, laissez-le bosser. Il est quand même cette semaine, il met un but contre Benfica qui quand même te permet de te qualifier. Un but contre Toulouse qui te préserve.
réserve tes chances d'aller encore en Europe à la fin de saison. Et on se moque. Oui, il est pas technique. Oui, très bien, il est pas technique. Mais est-ce que aujourd'hui, dans un poste de remplaçant derrière Aubameyang, est-ce qu'il peut apporter à l'Olympique de Marseille? Ben voilà, on va attendre. De là à se moquer tous les deux soirs sur Mumbagna, sincèrement.
Mais surtout, il y a toujours eu un effet de loupe, et c'est bien normal sur les performances du numéro 9 à l'OM. Il y a eu Jean-Pierre Papin, exactement. On va pas revenir là-dessus. Didier Drogba, et puis Damien citait les échecs. Il y a eu Vitinha, il y a eu Mitroglou, il y avait Alfonso Pérez qui était arrivé. Il avait rincé tout le monde en Liga. Il n'a pas touché un cachou en Ligue 1. Moi, je trouve que, avant même les moqueries, que je trouve détestables, il y a surtout une méconnaissance de ce qu'il produit. Alors ok, il a pas enfilé les perles.
La rentrée contre Benfica avait été compliquée techniquement, mais il avait été joué.
Okay, il l'avait mis dans l'impact, dans l'énergie. Ce sera jamais Van Basten ou Benzema.
Sans aller jusque là, les amis.
C'est jamais un mec. Encore une fois, c'est pas les mêmes joueurs. Mais toi, un Benzema ou un Rooney qui savait jouer avec les autres, redescendre en 10, qui avait une technique. Non, c'est pas ça. Mais en impact player. Et je suis désolé. Il a été pas mal par moments. Ça se reproduit pas dans les stats, mais il est capable de combiner.
Hein.
Il est capable de.
Oui, puis je pense que ça peut être une plaie.
Il a des remiser pour ses copains.
Mais tu sais que c'est dur hein, quand t'es central et que tu vois rentrer un mec comme ça.
Voilà,
c'est
plein
ça.
Il doit être pénible.
Et tu te dis, oh là là, je vais me taper puis, un mec qui va vite, un mec qui rentre dedans, qui va être. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est un attaquant. Il a des occasions. Oui. Le jour où ça va être bien techniquement, un peu mieux devant le but et tout, il marquera peut-être ses 15 buts en Ligue 1 ou 20 buts en Ligue 1, et l'Olympique de Marseille lui dira merci, ou un autre club.
Après, oui, c'est pas extraordinaire. C'est vrai que moi, la rentrée qu'il a fait contre Benfica, hormis son but, mais dans un positionnement un peu de côté droit qui l'a éloigné un petit peu du but, j'ai trouvé que voilà, c'est vrai que techniquement, c'était très très en dessous.
Et si
maintenant, la réalité, c'est que si on doit analyser sa semaine, il est important pour l'Olympique de Marseille, et c'est un jeune joueur qui vient dans le rôle de second. On fait des débats tous les soirs en ce moment sur Mumbagna. Ça va, on parle pas de.
Mais on en fait encore ce soir, t'as vu?
Voilà, non, mais là, c'est là. Là, on essaye un petit peu de.
Oui, d'équilibrer un peu
d'équilibrer. Les. Mais c'est vrai que quand j'entends, ça va, on va se calmer doucement, quoi. Oui, il est pas bon. On n'est pas obligé de se moquer. Et puis en plus, il met quand même un but contre Toulouse. Il est pas mal, le but.
Oui, il faut un peu d'aisance.
Mais moi, je me souviens qu'il y avait des moqueries lorsqu'il était arrivé parce que personne ne le connaissait et qu'on se disait, ils ont encore fait n'importe quoi. C'est le panic buy, comme disent les Anglais. Il fallait prendre un mec, absolument. Je trouve qu'il est pas.
Après,
si
oui, c'est pas Aubameyang. Oui, c'est pas Aubameyang.
Ce qui est important, Damien, aussi, c'est les mots de son entraîneur. Voilà, Jean-Louis Gasset l'a très bien analysé. Il a des problèmes dans ses courses, il a des problèmes techniquement. Il sait à qui il a affaire. S'il le fait rentrer sur le terrain, c'est qu'il a confiance aussi en ses qualités qu'il a pour l'instant, et qu'il sait qu'il peut aider l'équipe. Sinon, il ne le mettrait pas, il le laisserait sur le banc et point barre.
Voilà, pour Faris Mumbagna, qui débutera peut-être demain ou aura quelques minutes demain soir face à Nice. Dans un instant, l'autre match demain attendu, c'est Monaco-Lille. Cette question est appelée nous au 32-16 pour en débattre. Supporter monégasque et lillois, qui est le mieux armé pour finir deuxième? Aujourd'hui, à 18h, l'a dit, nous voulons être absolument deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est Génération After avec Damien Perquis ce soir, Simon Dutin et Walid Acharchour. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Merci d'être avec nous, RMC Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On a eu les résultats d'audience en début de semaine, en milieu de semaine dernière.
C'est comment, en fait?
C'est positif, les gars, on progresse. On
Génération
avance.
After, c'est bien.
On est de plus en plus écoutés. Exactement, mon cher Walid. C'est une belle récompense. Bravo à tous, hein, toute l'équipe.
Cette émission qui
démarre. Bien sûr.
Cette émission plein d'humilité.
Qui grandit bien depuis un an et demi maintenant.
On
est
un peu les femmes Mumbagna du PAF.
T'es un peu plus vert.
Je le prends un peu mal quand même.
Non, on vient avec beaucoup d'humilité.
Moi, tu dis, on a plus Nicolas Jamin est plus technique que Mumbagna.
On a appelé Vitinha de la grille des programmes d'RMC, okay. J'entends.
D'accord. Vitinha lequel?
Le Parisien, mon ami.
D'accord. Non, mais je parlais en termes d'humilité. On vient, nous, on est là.
Ah, d'humilité?
Non, on est là, etc. On essaie de mettre un but ou deux importants dans la saison.
C'est pour faire gagner les points l'équipe.
C'est ça. On est assez brut. Au niveau verbal, hein, un peu brut, pas le plus technique,
mais on progresse.
Pas le champ lexical le plus.
On progresse. On aime le foot,
tu vois.
Et on parle foot.
On a des points communs avec Faris.
Tout à fait.
Enfin, moi, j'en ai.
D'ailleurs, il prend cher sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Faris, hein, malgré tout ce qu'on a pu développer ici avec Damien, Simon et Walid. Bon, voilà, t'as Steve qui nous dit Mumbagna actuellement, il est pourri, les gars, je suis désolé, il ne peut que s'améliorer. Mais Jean, il y en a, je ne sais même pas si la Ligue 2 est à son niveau. Bon,
ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est gratuit. Ouais. On nous dit également Vitinha 10 fois supérieur à Mumbagna.
Oui, mais enfin, le problème de Vitinha, c'est qu'il y avait 32 millions d'euros.
Profil différent, comparable.
Il y avait 32 millions d'euros à chaque fois qu'il contrôlait un ballon et que malheureusement il fallait casser ça.
C'est ça, tout à fait. C'est trois fois moins cher Mumbagna, les amis aussi.
Non, mais voilà, c'est.
Bon, t'as Arnaud qui nous dit 6 stop bashing Mumbagna. Voilà, c'était un peu l'idée de ce soir dans Génération After.
Laissez-le bosser, laissez-le tranquille.
Tranquille. Demain soir, Monaco-Lille. Monaco, 2e, 55 points. Lille, 4e, 52 points. À 4 journées de la fin, Monaco, qui est sur une bonne série d'ailleurs. On en parle peu, c'est vrai. 5 victoires, 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Lille aussi, invaincu sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Gros duel. Qui, selon vous, est le mieux lancé et même le mieux armé pour aller chercher la 2e place? Je le disais tout à l'heure, à 18h, estime que. Enfin, veut absolument cette 2e place. La 3e place l'intéresse moins, même si elle sera qualificative directement pour la phase de poule de la prochaine Ligue des Champions. Vous nous appelez supporters monégasques et lillois au 32-16. Je précise, Monaco demain, bien sûr, sans Golovin, ça on le savait, out jusqu'à la fin de la saison, sans Ben Seguir et Singo, hein, suspendu après leur carton rouge le week-end dernier. Tiens, Damien, je commence avec toi. Qui est le mieux armé, selon toi, dans la dynamique et dans les contours de l'effectif entre Monaco et Lille pour être dauphin du PSG?
Dans la dynamique, dans le contour de l'effectif, je pense que Monaco est mieux armé. Ça a été un objectif depuis le début de saison de finir, en tout cas, soit d'aller chercher le titre, mais en tout cas de finir deuxième derrière le Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année et ça a été l'objectif affirmé d'entrée du club. Je pense que, vu le calendrier qu'ils ont aussi,
c'est ça.
C'est un peu plus facile, on va dire, après cette confrontation avec Lille demain, pour Monaco.
Ils vont à Lyon, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier, ils reçoivent Nantes.
Voilà.
Donc c'est un calendrier plutôt abordable.
Voilà, qui est plutôt abordable, en tout cas avec des matchs où ils vont certainement rencontrer des équipes qui n'auront plus rien à jouer, comme Montpellier. Après, pour Lille, voilà, il y a eu peut-être la déception aussi de l'élimination en Coupe d'Europe, même s'ils ont bien rebondi derrière. Voilà, je pense qu'il faut. Je pense que Monaco, pour moi, a toutes ses chances de finir deuxième.
Walid.
Oui, moi, je suis d'accord. Même si pour moi, l'équipe qui me procure le plus de plaisir cette saison, l'équipe la plus cohérente de Ligue 1 hors Paris Saint-Germain, ça reste le Lille de Fonseca. On l'a encore vu sur la double confrontation contre Aston Villa où ils auraient mérité de se qualifier. Mais je suis d'accord avec Damien sur le côté calendrier, sur le fait de recevoir Lille aussi.
Ah mais c'est ça, il y a pas de boule de cristal pour dire qu'on en saura un peu plus demain soir. Quoi.
Voilà, le fait de recevoir Lille, derrière tu joues Clermont à la maison qui sera en Ligue 2, Montpellier qui sera sauvé, même si attention il y a la blessure de Golovin, mais il y a un Kliouch en ce moment qui est en grande forme et qui prend une belle dimension. Donc je me dis quand même que Monaco va faire le boulot. Et puis Monaco dans les gros matchs quand même cette saison, je regardais notamment à l'extérieur, tu vas t'imposer à Lens, tu vas t'imposer à Nice, tu vas t'imposer à Brest, où t'as Nil complètement
costaud,
Brest.
Bien sûr.
Je trouve quand même qu'il y a une certaine fiabilité là-dessus. Bon, ils avaient perdu à Lille au match aller. Donc je te dirais Monaco, même si pour moi, je trouve que le travail, la régularité, la cohérence me feraient pencher sur Lille.
Simon.
Il va falloir que tu m'invites plus souvent, Nicolas, parce que j'en ai marre d'être tout le temps d'accord avec Walid. Là, ça me manque, là, quand on se prenait la tête. Moi, Lille, c'est le 11 titulaire. Je crois que c'est mon équipe favorite en Ligue 1. Tu nous avais fait jouer au jeu des petits pronostics, tu sais, en début d'année. J'avais mis Lille sur le podium, donc j'ai pas envie de me dédire. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de stabilité. C'est même pas une impression du côté de Lille après une mise en chauffe un peu plus lente. Je trouve que Monaco a laissé passer beaucoup d'occasions quand même cette année. Alors, je me suis suffisamment fait insulter par les Lyonnais pour rappeler que il y a ce match en décembre, là, c'est une des premières de Pierre Sage. Ils doivent gagner 3-4-0, mais Balogun a gardé les boîtes à chaussures, ils perdent 1-0. Il y a eu Balogun, les deux pénaux ratés contre Nice. Ils ont besoin d'un match nul contre Le Havre, qu'ils doivent gagner 1000 fois, ils font un partout, alors qu'ils ont roulé sur le Havre. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. Monaco, je trouve, prend trop de buts cette saison.
C'est un peu plus sérieux, là.
Alors, je pense qu'ils sont dans une meilleure dynamique. En effet, je vous rejoins, messieurs. Ils encaissent trop de buts, mais ils en marquent plus. Et j'ai l'impression qu'il vaut mieux marquer beaucoup de buts, quitte à en encaisser beaucoup dans les scores de fin de saison, un peu, tu sais, un peu anarchiques.
Là, ils battent
face à des équipes Damien l'a rappelé, ne jouent plus grand-chose. Il y a souvent des matchs enlevés avec beaucoup de buts. Je pense que Monaco est bien placé. Mais si c'est Lille qui le fait, Monaco ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, parce que les matchs ratés dont j'ai parlé, on a suffisamment souligné le fait qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette année, ils pourront le regretter longtemps.
Ils battent Rennes, même si sur la première mi-temps il y a un match dans le match entre les deux, et en deuxième mi-temps je les ai trouvés décevants à 11 contre 10 pendant une grande partie de la rencontre. Ils vont gagner à Strasbourg, là ils gagnent 5-2 contre Metz. Tu sens quand même que c'est un peu mieux, même défensivement, même si moi je suis pas un grand fan de Thilo Kehrer, qui lui aussi a pris rouge contre Rennes notamment. Je trouve quand même globalement moins qu'il dégage quelque chose. Et puis il y a une fraîcheur sur cette fin de saison, due notamment au fait de ne pas avoir fait de coupe européenne, qui, je pense, fera la différence. Moi, je le dis, hein, mais s'ils font pas deuxième, ce serait quand même ça sera rien parce qu'ils iront en Ligue des Champions.
Presque une déception.
Mais ce sera presque une déception.
Bon, franchement. C'est vrai qu'on parle beaucoup du boulot de Paulo Fonseca. Hein. Tout le monde est dithyrambique. Ce qu'il fait, bon, ce qu'il a fait en Coupe d'Europe également et en Ligue 1, on parle peu, très peu du travail d'Adi Hütter. Est-ce qu'il a un mérite à amener ce Monaco-là actuellement deuxième de Ligue 1? Est-ce que tu y a quelque chose qui te plaît dans ce qu'il propose à l'ASM, toi, Damien?
Ouais, moi je rejoins.
Ou c'est juste normal Monaco deuxième.
Non, moi je rejoins Simon sur le fait qu'il marque beaucoup de buts. C'est voilà, ça on sait qu'ils sont capables de marquer quoi qu'il arrive et avec des buteurs et à côté de ça. C'est vrai que la stabilité défensive, elle a été mieux apportée. Après, il y a une chose, c'est sur ce qu'ils font à domicile. Mmh. Et les résultats où ils ont bugué, ça a été à domicile. Que ce soit le Havre ou Toulouse, le nul et la défaite.
Avant la victoire contre Rennes, il y avait
quand même des grandes difficultés à domicile. C'est peut-être ça le bas qui blesse pour demain. Mais après, sur le rôle du coach, moi je trouve qu'il a façonné son effectif comme il le voulait aussi. Il l'a préparé à être à cette deuxième place. Il est dans les temps. Donc voilà, et pour moi, et il a sorti aussi des joueurs du centre, il a promu les jeunes, donc ça c'est bien aussi.
Après, c'est la politique du club de mettre en avant les jeunes joueurs notamment. Moi, sincèrement, je suis incapable de te dire, Nico, si c'est le travail d'Adi Hütter qui fait que, ou si c'est les individualités.
Il y a forcément une part de responsabilité.
Oui, il y a une part de responsabilité, mais moi, je suis désolé, à un match par semaine, quand t'es Monaco, quand t'as Balogun ou Ben Yedder devant et Mbolo.
Tu fais pas podium,
Mbolo qui est à l'infirmerie parce qu'il s'est fait les croisés. Quand tu dois choisir entre Minamino, Akliouche, Ben Seguir, Golovin, qu'au milieu de terrain, t'as le choix entre moi, Mohamed Camara qui est sur le banc, Denis Zakaria qui joue à Chelsea, à Gladbach, à la Juventus.
Zakaria qui fait une saison exceptionnelle.
Et Fofana, ça va. Hein, oui, je me dis, non mais autant Fonseca, je suis capable de te dire qu'il optimise un max l'effectif de Lille, autant sur Monaco et à 18h, je ne me prononce pas. Je ne te dis pas qu'il n'a aucun apport, mais je n'arrive pas à saisir quand je vois les matchs si véritablement c'est lui.
C'est presque un train qui arrive à l'heure. Tiens, j'accueille Charles au 32-16, supporter lillois. Salut Charles.
Oui, salut à tous.
Bienvenue dans la génération After, heureux de t'accueillir. Bon, comment tu sens cette fin de saison, toi? Est-ce que, bon, après, attention, hein, si Lille finit 3e, c'est une saison exceptionnelle pour vous aussi. Hein. Je pense que la deuxième place, ce n'est pas l'objectif absolu, c'est tout le podium.
Ah ouais, mais c'est complètement. Après, on se souvient un peu de la désillusion du dernier match contre Troyes la saison dernière. Où, d'accord, il y a un tournant qui est Monaco demain soir pour nous. Mais je me méfie beaucoup des matchs qui viennent contre Metz, qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Il va y avoir encore, je crois que c'est Lyon à domicile, Nantes et Nice à domicile à la fin. Donc même, enfin quel que soit le résultat de demain, je me méfie encore limite plus des matchs qu'il y aura par la suite.
Certainement. Lille hein, qui va recevoir Lyon, aller à Nantes et finir par la réception de Nice. Effectivement, le calendrier lillois est beaucoup plus corsé que le calendrier monégasque. Bon, en tout cas, la saison, tu estimes qu'elle est déjà réussie pour Lille ou pas? 4 jours après l'élimination.
On sort quand même d'une grosse désillusion. Voilà, exactement. Non, on a toujours pas complètement récupéré de la... Enfin, la désillusion contre Aston Villa jeudi dernier. La victoire, on sent qu'on a un peu puisé dans les batteries en deuxième mi-temps contre Strasbourg ce week-end. La victoire fait vraiment du bien au moral, je pense. Mais dire que le récit, je pense oui dans le jeu, complètement. Après, il faudrait qu'on tape dans les 3 premières places. J'ai très peur de la 4e place avec des tours de barrage. Donc si on arrive à s'éviter ça, ce serait pas mal.
Merci Charles d'être venu dans Génération After. Tu nous rappelles quand tu veux, et par exemple demain soir, hein, pour débriefer le match contre Monaco, ce sera bien sûr dans l'After sur RMC. Excellente soirée à toi Charles, à très vite.
Avec plaisir, merci.
Salut Charles.
Ce soir Ligue 2 aussi les amis. Coup d'envoi dans quelques secondes de la 34e journée de Ligue 2. Tous les matchs ce soir, baston pour la montée.
Journée très intéressante.
Ouais, tout à fait. Edgar Groulot est avec nous. Salut Edgar.
Salut Nico, salut à
tous. Tu vas suivre 7 matchs en seul.
Grosse soirée
pour toi. Mais nous avons également 3 hommes sur les stades, notamment à Auxerre, leader de Ligue 2 qui reçoit Laval. Bonsoir Fred Joly.
Bonsoir tout le monde et bienvenue. Salut, au stade Abbé Deschamps, plein comme un œuf. Guichet fermé pour cette rencontre. C'est le 3e guichet fermé de la saison pour la JO Serre. C'est parti depuis 43 secondes. des Auxerrois un petit peu dans le dur, hein, qui restent sur des défaites face à Quevilly, Rouen, et puis face à Rodez et face à eux, des Lavallois qui sont eux carrément dans le dur avec 5 matchs sans victoire, 4 défaites et une 4 défaites et un nul pour les Lavallois. C'est parti, en tous les cas, okay. On attend du spectacle à la Baie des Champs, 0-0.
Guingamp, Angers, bonsoir Xavier Grimaud.
Bonsoir à tous, bienvenue au Roudourou qui est un peu moins plein comme un œuf que le stade de la Baie des Champs, mais c'est parti depuis une minute, 0-0 entre Guingamp et Angers. Angers, toujours deuxième, hein, qui résiste pour l'instant au vert de Saint-Etienne. Ils ont bien redémarré après un début de saison manqué, un début d'année civile, pardon, manqué des Angevins. Ils restent sur 6 matchs, 4 matchs sans défaite, 2 victoires, 2 nuls. Et une victoire ici permettrait de rester à la deuxième place. 0-0, premier centre Angevin repoussé par la défense bretonne. 0-0, 1 minute 30.
Il y a un match pour le maintien. Bordeaux-Dunkerque, sous les yeux de Nico Pollorsi. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous. Nico. Dans un match but atlantique qui est vide pour le coup, avec un virage sud déserté par les supporters qui font la grève. Bordeaux 14e reçoit Dunkerque 15e. Bordeaux doit gagner pour éviter de se faire vraiment peur. Ils ont 6 points d'avance sur les relégables. C'est parti depuis quelques minutes. 0-0 entre les deux équipes.
Nico, tu vas découvrir mon chouchou du côté de Dunkerque, Jessim Yassine, le 80.
Ah, bah, je vais regarder ça.
Bon joueur, un ailier.
Jessim Yassine,
19 ans, très bon joueur, sincèrement.
De Marignan, je vais scruter son match et je vais te faire un rapport, Walid.
Et Nico, Marcelin est titulaire.
Marcelin est titulaire. Bon, on aura le temps de reparler des Girondins plus tard, mais c'est dramatique ce qui se passe cette saison, franchement.
Vous savez que la pelouse du jardin de Nico Pollorsi est mieux tondue que celle des Girondins.
Bah, déjà, j'ai une tondeuse.
T'as une tondeuse, ils en ont plus.
Déjà, j'ai une tondeuse, ils en ont plus.
On en parlera tout à l'heure avec toi.
C'est une électrique, mais elle fonctionne bien quand même.
Mec, c'est incroyable ça.
Quel carnage.
Mais oui. Allez, on en parle tout à l'heure à 21h45 avec toi, Nico. C'est donc parti pour la soirée de Ligue 2. C'est parti également sur les autres pelouses. Edgar.
Oui, avec 7 matchs, donc tu l'as dit, Grenoble, Saint-Etienne, QRM, Amiens, Bastia, Concarneau, Valenciennes, Ajaccio, Caen, Annecy, Rodez, Paris FC et 3 Pau. On va suivre tout ça pour l'instant 0-0 sur toutes les autres pelouses de ce multiplex.
Pause, on va dans un instant dans Génération After avec Simon Dutin, Damien Perkis et Walid Acharchour. Vous écoutez RMC. On parle de Lens dans quelques secondes. On parlera aussi à partir de 21h de Vitinha, le Parisien. Reste avec nous, c'est RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Simon Dutin, avec Damien Perkis qui est avec nous ce soir et Walid Acharchour. Tu vas bien Damien?
Ouais, très bien, impeccable.
Tu bosses également à Bein Sport, hein, je me rappelle.
Ouais, également, ouais, avec Vanessa Lemoyne dans Bein Center le dimanche après-midi, puis quelques commentaires de match et des émissions aussi avec Darren Tullet.
Bah t'es bien, t'es RMC aussi. Ce soir, on est heureux de t'accueillir. Tiens, la Ligue 2, un premier but a été marqué ce soir en Ligue 2 à Auxerre Laval, Fred Joly.
Exactement, il aurait fallu à peine 5 minutes à la Auxerre pour prendre l'avantage au débordement de Perrin qui centre. Alors, il nous semblait que c'était Hein qui touchait le ballon, mais apparemment, ce serait Lomami, qui est le défenseur Lavallo qui aurait marqué contre son camp. Enfin, ce qui est sûr, c'est que la Auxerre a pris l'avantage. La Auxerre a parfaitement débuté cette rencontre. Il cherchait à se rassurer. Les Auxerrois, c'est bien parti. Il mène 1-0.
Auxerre, qui est tout proche de retrouver la Ligue 1. Voilà pour la Ligue 2, les autres scores. Rien n'a été marqué. On fera un point tout à l'heure à la fin de cette première heure de Génération After. Tiens, on voulait parler de Lens également ce soir. Samedi soir à Bollard, hein, je rappelle le contexte, Lens mène 1-0 face à Lorient. Et à la 89e minute, Eli Wahi, pas en réussite ce soir-là, est remplacé par Morgan Guilavogui. Écoutez la réaction de Bollard. Voilà, le gamin se prend une bronca à Bollard, pas habitué à entendre ce genre d'ambiance à Lens. Écoutez également ce que disait Franck Hez après le match.
Lui, comme nous, comme tout le monde, nous aurions tous aimé qu'il marque un but. Le gardien aussi fait les arrêts. On peut faire des compilations de très grands joueurs qui n'ont pas marqué toujours des buts. Ça fait partie des buteurs. Il y a des moments où ça fonctionne, des moments où ça ne fonctionne pas. Il s'est créé. Il continuera à s'en créer, il continuera à en marquer d'autres, j'en suis certain. Après la bronca du public, d'une partie du public, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai même pas envie de donner quoi que ce soit une importance. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aident pas le joueur, ils aident pas l'équipe. Voilà, ils jouent contre leur camp.
Franck Hez dit un peu plus tôt dans la soirée, notre public est devenu trop exigeant, on a fait 84 points la saison dernière. C'est le cas. Simon, t'es pas d'accord?
Non, mais alors il y a deux choses, trop exigeant, trop dur avec Wahi.
Oui, avec Wahi.
Je suis pas d'accord. Non, je pense que au bout d'un moment, c'est faut assumer. Quand t'es porté au nu, on attendait autre chose.
Porté au nu par qui?
Mais par nous aussi, on est coupable, on est comptable de ça, Nico. Mais il faut se souvenir quand même que c'était, c'était la hype de.
Il a 21 ans.
Souviens-toi du carnage qu'il a effectué à Montpellier. Ce qu'il a montré dans cette équipe de Montpellier, je trouve ça tout à fait légitime qu'on en attende monts et merveilles. On en attend.
Justement, juste l'erreur, elle est là, Simon, je pense. C'est un gamin de 20 ans qui a grandi à Montpellier, qui sort de son cocon de la paillade.
Dans ce cas, t'as tranché le débat.
Je débat avec toi.
Je conçois que ce soit dur à cet âge-là, mais c'est des gars qui sont préparés à ça. Ça peut basculer du bon côté comme du mauvais côté. Moi, je me souviens qu'il avait déjà été sifflé lors du match contre le PSG. Il est sorti à un quart d'heure de la fin. Bon, et encore une fois, à juste titre, c'est un mec. Moi, je trouve que c'est un des numéros 9 en France qui est le plus fort balle au pied face au jeu. Je trouve qu'il y a ce dribble derrière la jambe qui est devenu trop stéréotypé. Il fait toujours la même feinte. Je trouve qu'il a manqué de spontanéité, manqué de créativité, manqué de finition. Je trouve que c'est toujours difficile d'être critiqué par son propre public, mais au vu de l'investissement, il faut se souvenir, on parlait de lui à Arsenal, on parlait de lui éventuellement à Chelsea. Bon, il atterrit à Lens. Moi, je me mets à la place des supporters lensois qui ont peut-être été mal habitués avec la saison fantastique d'Openda la saison dernière, mais moi, je trouve qu'il manque du gras. Je suis désolé, la saison d'Ouaï, elle n'est pas satisfaisante au vu de l'investissement, au vu de son potentiel.
Damien, moi, c'est... Ouais. Vas-y, Damien.
Non, moi, je pense que c'est... Les sifflets, pour moi, on a le droit d'exprimer sa colère et son mécontentement, il n'y a pas de souci. Après, il ne faut pas oublier que Ouaï, c'est une saison à Montpellier, vraiment, enfin, c'est deux saisons, mais c'est une saison complète où il explose tout. Voilà, en tout, il en met 25 dans la saison. Je pense que, et derrière, on lui colle un tarif. Et aujourd'hui, quand on parle de tarif et qu'on parle d'investissement, on attend forcément beaucoup plus d'un jeune, même s'il est jeune, ou en tout cas d'un joueur. À partir du moment où on pose 35 millions, on attend de quelque chose. Et il remplace Openda, qui marquait beaucoup.
De tout ça, il n'est pas responsable, lui.
Oui, mais OK, il n'est pas responsable. Mais moi, je ne te dis pas que je cautionne les sifflets et que c'est normal. Attention, moi, je viens un peu aussi pour le défendre. Il faut, on dit souvent qu'il faut laisser du temps. Là, il en a eu quelques mois. Mais c'est vrai que, malheureusement, le prix où il a été acheté, on demande récompense sur investissement. Et pour l'instant, les supporters l'ont pas. Après, je suis d'accord avec Franck Hesse quand il dit, le public marque un but contre leur camp, ou en tout cas, il joue contre leur camp en sifflant le joueur parce que ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider. Alors même, il va pouvoir vous dire, ouais, ça me passe au-dessus, je m'en fous. Et ses potes du vestiaire vont pouvoir dire, ouais, on va l'aider, mais il s'en fout. Mais non, il s'en fout pas. Ça l'atteint. Il est jeune aussi, il faut comprendre ça. Et je pense que c'est pas le meilleur moyen de pouvoir le voir retrouver son meilleur niveau.
Walid.
Moi, ce qui me dérange, c'est pas. On a beaucoup parlé de Ouaï toute la saison. Moi, je suis globalement d'accord avec Simon. C'est vrai que ça reste une déception, même s'il y a un changement de statut. Mais bon, j'imaginais quand même qu'il avait fait le bon choix en allant à Lens plutôt qu'aller à Chelsea ou dans un autre club avec beaucoup plus d'exigences. Moi, c'est surtout les supporters qui, au-delà de Ouaï, critiquent le jeu de Lens, qui est beaucoup de supporters qui sont très très impatients en ce moment. Faut pas oublier d'où vient Lens, que ce qui s'est passé l'année dernière, ça reste exceptionnel et peut-être qu'ils le reverront jamais. Que depuis le départ de Gisolfi, et on sait pas si Franquès va partir, il va falloir retrouver peut-être une place un peu plus normale pour le RC Lens. Et moi, je les trouve quand même très très durs. Là, sur le match contre Clermont, je les ai trouvés quand même très dur parce que c'était pas que Ouaï, et je crois qu'il y a Brice Samba qui en a parlé notamment en conférence de presse, il y a aussi Jonathan Gradit qui en a parlé, Franquès au micro de Canal, et je pense que si Lens fait 6e ou 7e place cette saison, faut pas tout brûler quoi, et du côté des supporters, faut quand même donner de l'amour à ces joueurs qui ont fait des très très belles choses sur les deux dernières années, et je trouve que ils ont un peu la mémoire courte.
Écoutons Julien, supporter lensois qui a fait le 32-16. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue dans Génération After. Supporter lensois, t'es à Bollard ou pas samedi soir?
Oui, alors moi j'étais
T'as
à Bollard.
T'as sifflé?
Non. Puis je pense que si c'était arrivé, très sincèrement, je me serais fait casser la gueule parce que je suis quand même dans une section. Donc c'est pas trop l'esprit. C'est plus sur les niveaux au-dessus que ça a sifflé. Alors moi, de toute façon, je siffle jamais les joueurs par principe, mais je voudrais à la fois défendre Ouaï et à la fois une partie du public. Défendre Ouaï parce que il est encore très jeune, parce que de toute façon dans le monde actuel du foot, les attaquants ne valent pas le prix de leur transfert. Il a trop de pression sur lui et en plus de ça, moi je pense que d'un point de vue sportif, il correspond pas totalement au profil qu'il recherchait et que c'est un recrutement qui reste à la va-vite en fin de saison, euh, en, fin de mercato, pardon, parce que l'EDS de l'époque faisait pas forcément le boulot. Après, je voudrais aussi quand même défendre le public, parce qu'un public, ça a le droit de siffler, mm-hmm. et parce que c'est pas la première fois de l'histoire de Bollard qu'on siffle. En Ligue 2, des sifflets, il y en a eu. Avant la Ligue 2, même l'année du titre, je crois qu'il y a un match où il y a eu pas mal de sifflets aussi. Bollard, c'est un public qui reste exigeant. Historiquement parlant, il est totalement faux de dire que Bollard n'a jamais sifflé et que d'un seul coup, le stade se serait embourgeoisé depuis cette fameuse saison dernière. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, moi, je suis quand même, je vais à Lens depuis plus de 20 ans. Ça a déjà sifflé une paire de fois, y compris sur notre histoire d'avant, avant la première descente. Donc, je pense aussi que Bollard a le droit d'être exigeant. Il l'a toujours été. Et je pense que ce qui est important pour les supporters et qui fait un peu défaut chez Ovi, c'est la question de l'état d'esprit. Ce qu'on lui reproche, c'est pas forcément tous ses ratés contre Clermont, et Dieu sait qu'il y en a une paire. Je pense que c'est surtout ce qu'il renvoie. Je pense qu'il renvoie quelque chose qui plaît pas forcément aux supporters lensois, qui peut expliquer une partie.
Ouais, c'est plus l'attitude finalement que les performances, quoi. Vas-y, Julien. Allô, Julien, es-tu avec nous?
Oui.
Oui, vas-y, vas-y, je te laisse finir.
Après, plus globalement, moi, je pense qu'il faut pas s'attendre évidemment à une qualification en Ligue des Champions chaque année. Et je pense que les supporters lensois sont très conscients qu'on va progressivement rentrer dans le rang. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir une exigence sportive qui soit corrélée aux exigences économiques. On a quand même un bon budget, il y a encore des nouveaux investisseurs qui viennent de prendre des parts à Lens. Donc je pense que si chaque année on a pour ambition de finir 5, 6, 7e, c'est totalement corrélé aux réalités économiques du club. Et surtout, point très important, il faut quand même être un minimum exigeant, parce que la clé du projet sportif, c'est Francaise. Et je crains que si on n'arrive pas à accrocher à minima une place en Conference League, j'ai peur qu'il s'en aille. Et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour le garder, parce que c'est lui l'homme de la situation.
Après, c'est un sujet qu'on va évoquer aussi.
Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu.
Ouais, Lens, 6e de Ligue 1, pour l'instant largement dans les temps. Merci Julien d'être venu dans Génération After. Avant la pause, rapidement, encore un but à Auxerre, Fred Joly.
Exactement, la JOCR se rassure, la JOCR déroule avec cette petite passe décisive, un bijou de passe de Ravelosson dans la profondeur pour Aïe qui va seul au but, petite balle piquée par-dessus Samassa, et la JOCR mène maintenant 2-0, deuxième but signé Florian Aïe.
Allez, pause dans un instant, Génération After, on va parler de Vitinha, vie de Walid et de Barcola également, que Simon veut voir absolument à l'Euro, la suite de la soirée Ligue 2. Reste avec nous, c'est RMC, à tout de suite.
Génération After.